Le duel Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. On va démarrer ce retour sur la semaine avec un rapport qui était très attendu. C'était mardi dernier. Après 4 mois de débat, le Conseil consultatif national d'éthique rendait public la synthèse de ses travaux. Entre autres sujets ouverts à la discussion, la recherche sur les embryons, la fin de vie, mais aussi la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes et qui divise toujours ceux qui la réclament et ceux qui n'en veulent pas. Avant de parler du fond, un mot de la forme, on a l'impression que tout est fait pour éviter des tensions comme celles qui se sont exprimées au moment du débat sur le mariage pour tous il y a quelques années. 271 débats ont été organisés partout en France, 21 000 personnes y ont participé. C'est un succès, Natacha Polony ?
Un succès, je ne sais pas, mais en tout cas, il est évident que la leçon a été tirée de ce qui s'est passé pendant, la leçon politique, de ce qui s'est passé pendant le débat sur le mariage pour tous, c'est-à-dire qu'il s'agit pour Emmanuel Macron d'éviter à tout prix une crispation de l'opinion. Hélas, on peut regretter que cette peur d'une radicalisation des positions nous fasse passer à côté d'une bonne partie des réflexions qui devraient être les nôtres à titre collectif dans ce débat. C'est-à-dire que tout le monde se focalise sur la PMA. La révision des lois de bioéthique aujourd'hui dépasse très largement ce sujet-là. Mmh. L'évolution des biotechnologies devrait nécessiter véritablement une discussion. Or, pas grand-chose n'a eu lieu justement parce que le but est que rien n'ait lieu.
Raphaël ?
Non, clairement, l'objectif était de montrer qu'on est dans la concertation. Donc ce que ça signifie, c'est qu'en réalité, déjà le rapport, en gros, on n'a pas grand-chose dans ce rapport. Et par ailleurs, l'idée maîtresse est d'intégrer au maximum et en réalité, effectivement, de taire un certain nombre de débats, en tout cas de les limiter. Et ça, c'est un problème, on verra, c'est que le début d'un processus.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Je prends le sujet de la PMA parce que c'est celui qui a été le plus discuté au cours de ces 271 rencontres. Pas de consensus, comment faudra-t-il le trancher ? Parce que c'était une promesse d'Emmanuel Macron, elle n'est toujours pas inscrite dans la loi.
Je pense que ça reste une promesse et qu'elle sera tenue, puisque de toute façon, on voit bien que l'évolution des sociétés, quelle que soit l'absence de consensus, va vers cela. Donc ça passera, le problème n'est pas là. Ce qui est intéressant dans ce rapport...
Le problème est aussi là, puisqu'on essaye d'éviter...
Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est le double constat d'une absence de consensus et du fait que, en effet, sur certains sujets, il y a des philosophies qui sont totalement divergentes et qui relèvent d'une vision profonde de ce qu'est l'inscription de l'humain dans une société soumise à l'évolution des sciences.
Chacun est renvoyé à sa conscience.
En revanche, il y a donc ce constat et il y a le constat d'une spécificité française. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que les membres du Comité consultatif national d'éthique disent que tout de même, même avec des avis divergents, il y a quelques petites spécificités qui émergent, comme cette idée de gratuité, cette idée de l'autonomie face à la science. Or, tout cela est en train petit à petit d'être, disons, effacé, gommé, sous les coups d'une globalisation culturelle qui fait que la vision française de la bioéthique s'efface. Or, cette remarque du Comité consultatif national d'éthique me semble importante.
Mais bien sûr, c'est le souci d'extraire des logiques de marché les questions éthiques et les questions scientifiques. Et donc, c'est à mon avis extrêmement important. Suite à ces consultations, c'est évidemment le politique qui va trancher. C'est des questions qui relèvent de l'ordre de la cité.
Bien sûr.
Et donc le politique a toute légitimité ensuite à prendre des décisions qui vont nécessairement frustrer et même mettre en colère une partie de la société. Et ça, on voit bien sur des sujets pareils, ils sont passionnants parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir une position totalement dogmatique sur ces sujets. Et en même temps, il est nécessaire de trancher. Alors qu'est-ce que
est-ce que le sujet a été tranché ? C'était une promesse d'Emmanuel Macron candidat.
Donc c'est pour ça que je te dis que là on en est à une étape et que la vraie question c'est qu'est-ce que va décider le politique. Et donc la vraie question c'est qu'est-ce que va décider le politique sur la PMA. Moi je pense aussi que Emmanuel Macron va tenir ses engagements de campagne là-dessus. Mais sur la congélation des ovocytes par exemple, qui est une question fondamentale soulevée par le rapport, qu'est-ce que va être la décision et donc là on pourra réagir politiquement. L'enjeu là, c'était d'abord de désamorcer la critique principale qu'avait visée François Hollande, qui était de dire vous n'avez pas pris le temps de la consultation.
Mais la non. manif pour tous, alors, est-ce qu'elle appartient au passé ou est-ce qu'elle est encore capable de mobiliser? On imagine que c'est ça qu'il y a dans la tête des personnes qui planchent sur le sujet, notamment
oui,
à l'Élysée.
L'idée, c'était de la désamorcer.
Dans les partis politiques, la manif pour tous, elle a perdu le précédent combat contre le mariage pour tous et contre l'adoption par les couples homosexuels.
Je pense que nous aurions tort de nous focaliser sur la question politicienne qui consiste à savoir si la manif pour tous a encore une puissance de mobilisation.
C'est pas qu'une question politicienne.
Non, mais premièrement, sur la PMA, la question est très vaste. D'abord, il faudrait...
La PMA pour toutes.
Oui, de temps en temps, il faudrait préciser qu'il y a toutes sortes de PMA, oui. Qui ne posent pas les mêmes problèmes. Une fécondation in vitro de la part d'un couple hétérosexuel ne pose absolument pas les mêmes problèmes que, si on veut rester sur les couples hétérosexuels, une insémination avec donneur. Ça n'est absolument pas la même chose.
Et là, la question est d'ouvrir la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires.
Alors justement, sur les couples lesbiennes, le vrai sujet, où est-il ? Il est sur la question du remboursement. Est-ce que c'est à l'État de rembourser, c'est-à-dire d'induire l'idée que l'État doit compenser ce qui relève d'une façon d'être et d'un mode de vie et d'une identité, à savoir le fait d'être homosexuel et donc de ne pas être en couple avec quelqu'un de l'autre sexe et donc de pouvoir... procréer naturellement. Voilà, la question qui va se poser, or elle n'est pas tranchée politiquement. Mais, encore une fois, les sujets de
vous,
bioéthique
vous êtes favorable à la PMA pour
vaste.
Les couples homosexuels, enfin les femmes lesbiennes et aux femmes célibataires ?
Très honnêtement, je m'interroge pour une raison, c'est que cela entérine l'idée justement que l'État doit combler ce qui relève de cette identité spécifique. Et donc, qu'en gros, il appartiendrait à la société voilà, de répondre
même question,
à toutes ces demandes.
Vous êtes favorable ?
Moi, j'y suis favorable. Pourquoi ? Parce que autant je suis défavorable à la question de la GPA, mais mon principe, c'est l'égalité tant que cela et la liberté tant que cela ne nuit pas à autrui. Et sur la question de la PMA, de toutes les objections que je lis, il n'y en a aucune qui me montre que l'extension de la PMA pour toutes nuit à quiconque dans la société. On est sur la même logique, pour moi, là, que l'opposition au mariage pour tous, c'est-à-dire l'opposition à une conquête d'un droit. Et un droit qui n'invalide pas le droit des autres et qui ne retourne pas une question sociale.
Vous qui êtes à ce point
Natacha,
sensible à la question du collectif, mm-hmm. Raphaël, il me semble que dans la façon dont vous prenez le problème, vous rejoignez
les libéraux
utilitariste alors que vous n'êtes pas sur cette position-là, dans la mesure où tout le problème est de savoir comment on définit d'abord ce qui nuit et à qui, et ensuite il n'y a aucune fin si la logique est justement d'autoriser tout ce qui ne nuit pas à autrui.
Ben non.
Et la question est celle des limites.
Ben bien sûr, et la question des limites, elle surgit par exemple si on parle de la GPA. Et elle surgit de manière évidente. Moi, je suis tout à fait être d'accord sur plein de types de sujets avec les libéraux quand il s'agit des libertés individuelles. Mais ma principale critique vis-à-vis des libéraux, c'est quand ils pensent que la conquête des droits individuels suffit à faire une cité ou à faire une république.
La procréation n'est pas un droit, c'est un état de fait.
Non, le droit
c'est
de
un droit.
Mais le droit de
enfin c'est tout le problème est de savoir
non,
comment on
si,
définit
si,
un
bah,
droit.
Si, bah, quand on a la possibilité scientifique d'avoir un droit, eh bien le fait de le refuser ne peut se justifier que si ce droit enlève quelque chose à autrui.
Moi, donc, donc ce qui est très intéressant, c'est que nous en arrivons à l'ensemble des sujets de bioéthique, mm-hmm. c'est-à-dire la question de savoir si tout ce qui est possible scientifiquement doit pouvoir être fait.
Non.
On va voir arriver le virus artificiel et on va voir arriver
exemple,
la possibilité de manipuler l'ADN de façon extrêmement simple.
Congeler les ovocytes.
Et certains parlent d'un risque, d'un nouvel eugénisme. Effectivement, il y a la question de la congélation des ovocytes.
C'est hyper important pour les femmes.
Bien sûr, mais il y a plein de questions, et pour le coup qui nous concerne tous, la question de l'euthanasie, du suicide assisté, on a évoqué un supposé droit à mourir pour l'attribuer ou le reconnaître aux patients atteints de maladies incurables et dont l'espérance de vie est inférieure à 6 mois. Bref, chacun est renvoyé à sa conscience et on sent bien qu'il y a beaucoup de débats. Un mot, Natacha, et on va changer de sujet.
Mais il y a aussi, quelque chose qui relève des biotechnologies dans la capacité à manipuler l'ADN. Et ça passe à l'as parce que ça a l'air de moins nous concerner. Aujourd'hui, des scientifiques canadiens ont réussi à créer en laboratoire le virus de la variole en commandant des portions d'ADN sur Internet. Je veux dire, ça, La question de savoir comment on régule ce genre de choses, c'est une question essentielle. Aujourd'hui, c'est laissé au libre choix des scientifiques parce qu'il s'agirait de ne pas entraver le progrès. Donc, ces questions-là mériteraient aussi qu'on les pose.
C'est bien pour ça qu'il y a des consultations nationales et qu'il y a ensuite le politique qui va trancher. C'est qu'en France, justement, on n'est pas dans cette logique-là et ça n'empêche pas les conquêtes de liberté individuelle.
Et on n'a fait qu'entrouvrir les très nombreuses questions soulevées par le Conseil d'éthique à suivre. Donc, le duel continue.
France Inter. Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
C'était en Italie, mercredi dernier. Le gouvernement de Giuseppe Conte prenait officiellement ses fonctions après un vote de confiance du Parlement.
Si le populisme est l'aptitude de la classe dirigeante à écouter les besoins des gens, si anti-système signifie mettre en place un nouveau système qui retire les privilèges, nous méritons ces qualificatifs.
Et avec Giuseppe Conte, c'est un gouvernement donc populiste et anti-système de plus qui arrive au pouvoir en Europe après la Pologne, la Hongrie, la République tchèque ou la Slovaquie. Quelques pays de l'Union résistent pourtant à cette lame de fond. L'Espagne, qui vient de se choisir un gouvernement socialiste, majoritairement féminin, pro-européen. Pedro Sanchez est celui qui va conduire ce gouvernement espagnol. Exception espagnole dont on va parler tout à l'heure. Exception française aussi. Intéressant de lire un édito d'Alain Duhamel dans Libération cette fin de semaine où il explique justement cette exception française, notamment grâce aux institutions de la Ve République. Est-ce que vous partagez le diagnostic, Natacha ?
Alors, c'est tout le problème. On écoute Giuseppe Conte dire « Nous sommes populistes parce que nous défendons le peuple et nous sommes anti-système parce que nous voulons un autre système qui renverse les privilèges. » Et ensuite, on lit Alain Duhamel expliquer « Ouf, grâce à nos institutions, nous avons échappé à cette vague qui est une vague poussée par les électeurs, par le peuple. Donc en gros, nous avons des institutions qui verrouillent en partie la démocratie et ça nous permet de ne pas voir arriver des gens qui pourraient potentiellement mettre en danger notre conception
L'argument
de la démocratie.
L'argument aussi, c'est que l'élection c'est du terrifiant. Président de la République au suffrage universel lui donne une légitimité que personne d'autre ne peut avoir dans
vrai,
le pays,
mais,
pas même la majorité parlementaire.
Oui, mais alors Raphaël. Là, mon problème à moi, c'est que ça a marché dans sa logique cette fois-ci, mais avec un système comme la Ve République, à 4% près, des candidats qui ne plaisent pas du tout à Alain Duhamel peuvent se retrouver face à face au deuxième tour, et vous leur confiez un pouvoir, alors là, encore beaucoup plus grand qu'en Italie ou ailleurs. C'est-à-dire que ça se joue à très peu de voix, les présences au deuxième tour, finalement, à très peu de pourcents. Donc ce système qui permet de donner tous les pouvoirs à quelqu'un qui a fait 24% au premier tour, peut se retrouver dans les mains de quelqu'un d'autre que Emmanuel Macron avec des contre-pouvoirs très faibles. Donc moi, je ne pense pas que l'argument de la verticalité monarchique.
Oui, mais
de
c'est
la
un drôle d'argument parce que au second tour, c'est toujours le candidat du système qui gagne, pour le dire dans les termes de Natacha.
Et le jour où vous avez deux candidats anti-système face à face au second tour, souvenez-vous, c'est la grande peur qu'on a voulu nous faire en 2017. Mon Dieu, vous risquez d'avoir Mélenchon-Le Pen. Votez tous Macron dès le premier tour pour éviter ça.
Si vous avez Mélenchon-Le Pen, Alain Duhamel, il fait comment ? Parce que là, de toute façon, quoi qu'il arrive, il aura un candidat avec toutes les manettes de la Ve République au pouvoir et qu'il sera d'autant plus difficile à contrer que
donc
le système...
Donc vous ne voyez pas le système présidentiel comme une protection.
Ah mais je pense
vous
pas
ne
du
dites
tout
pas
que ce soit un garde...
République.
Mais non, mais moi je ne pense pas du tout que ce soit un garde-fou. Et surtout, je ne pense pas qu'on doive concevoir un système politique en fonction des votes à un temps T. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut concevoir un système politique dans l'idée justement que le jour où des diables, pour paraphraser Kant, prennent le pouvoir, eh bien, ils ont des capacité d'action plutôt limitée. En France, si vous avez un dirigeant extrémiste qui prend le pouvoir, eh bien, il a un pouvoir exorbitant.
Natacha.
Eh bien, moi, pour tout vous dire, je ne pense pas qu'il faille concevoir un système politique qui permette d'éviter à un moment donné que la volonté du peuple ne se porte sur quelqu'un que l'on juge peu recommandable. Je crois qu'il faut concevoir un système politique qui permette que le peuple n'ait pas envie d'aller vers des représentants qui vont l'emmener sur un chemin de radicalité, éventuellement de haine et de ressentiment. Mm-hmm. Parce que je pense que le ressentiment est un ressort éminemment dangereux. Donc je pense que le meilleur système est celui qui, justement, qui n'organise pas la préservation des privilèges, parce que cette préservation des privilèges conduit mécaniquement au ressentiment d'une grande partie du peuple qui veut abattre ces privilèges.
Là-dessus, on sera d'accord. Et il n'y a pas d'exception française pour pourquoi ? Parce qu'il y a 3 ans, tout le monde regardait l'Italie en disant « il y a une exception italienne ». Il faut se souvenir de Matteo Renzi à 41% des voix aux élections européennes. Tout le monde disait, oh, quelle exception italienne. Là-bas, la gauche, ça marche. Là-bas, il y a un dirigeant pro-européen qui est ultra populaire. Aujourd'hui, le Parti démocrate est dans les limbes et on a la Ligue plus le mouvement 5 étoiles au pouvoir.
Mais si la gauche et les pro-européens cherchent à se consoler en France, il leur suffit de regarder de l'autre côté des Pyrénées. Voilà, on regarde de l'autre côté des Alpes, mais des Pyrénées.
Pardon, mais l'Espagne, là aussi, est un cas assez spécifique. D'abord, on ne peut quand même pas faire abstraction du fait que l'Espagne, aujourd'hui, paye le Parti populaire, la corruption absolue du Parti populaire, un système où une des formes du ressentiment et de la colère s'est exprimée par l'autonomie, par les autonomistes et notamment en Catalogne. Donc tout ça modifie évidemment la situation par rapport à ce que nous vivons.
La situation n'empêche que la colère est extrêmement fragile puisque c'est un gouvernement minoritaire.
Mais bien sûr.
Mais laissons voir. Essayons. Je veux dire, là, il y a un jeune dirigeant de gauche qui a dit qu'il allait mener un programme réformiste. On va voir ce que ça donne. Après, ce qui est certain, c'est que lame de fond, elle touche absolument tous les pays. Et que c'est une tendance aujourd'hui dans l'élite française de se dire « Ouf, nous ne sommes pas touchés ». Mais souvenons-nous du résultat du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Et il y a une capacité comme ça à avoir une mémoire de poisson rouge qui est absolument fascinante. Mais enfin, au premier tour de l'élection de 2017, en gros, les gens qui étaient remis en cause ou qui remettaient en cause les élites françaises étaient majoritaires.
Et la seule question à se poser, c'est pourquoi cette colère ? Parce qu'il y a un système qui détruit les classes populaires et les classes moyennes des pays occidentaux.